Chapitre 12. L'air de plus en plus sinistre, Henrik se plongea dans ses souvenirs.
D'après le général Meffert, nous allions aussi vite que possible sans crever les chevaux. Tout le monde s'inquiétait pour vous, Seigneur, et pour la mère inquisitrice. Du coup, l'objectif était de sortir au plus tôt des terres noires, puis de gagner le palais sans tarder. À l'arrière du chariot, Zed marmonnait dans sa barbe. Puis il a demandé au général de ralentir. Avec les chaos, il ne parvenait pas à travailler convenablement, et il fallait absolument refermer la plaie de Calan.
Nietzsche et lui ont-ils dit comment ils pensaient soigner le seigneur Hall et sa femme, une fois au palais ?
Demanda Samy.
Ont-ils précisé comment ils réussissaient à intervenir sur les blessures alors que leurs patients étaient infestés par la mort ?
Henrik secoua la tête.
« Je ne sais rien sur la guérison et en magie, je suis un ignare. Mais j'ai seulement entendu Nietzsche dire à Zed qu'il pourrait traiter les plaies, mais sans toucher à la souillure, car pour ça, il devrait attendre d'être au palais, isolé par un champ de protection. »«
Au moins, nous avons une bonne nouvelle, » dit Richard à Samy. « Ça confirme ce que je pensais. Tu peux nous soulager malgré ce que tu as vu en nous. »
Concentré sur le récit d'Henrik, la jeune magicienne hocha distraitement la tête. Le soir tombait, chacun penché sur son patient. Zed et Nietzsche mobilisaient tout leur pouvoir pour le guérir.
La voix du petit garçon se brisa. Au prix d'un gros effort, il parvint à continuer.
Bien entendu, les cavaliers, Kara et le général surveillaient les environs tout en avançant. Le jour, les terres noires ne sont pas un endroit sûr. La nuit, eh bien, il faut être fou pour s'y aventurer, sauf quand on ne peut pas faire autrement.
Henrik joua distraitement avec le bord du tapis sur lequel il était assis.
Ce qui n'était pas notre cas, bien sûr.
Il semble bien, hélas, approuva Richard.
Si ses amis avaient pris le risque de s'enfoncer dans les terres noires, c'était pour voler à son secours.
De quoi se sentir atrocement coupable.
Nous avancions en silence, très lentement, selon les instructions de Zed, lorsque Nietzsche et lui ont soudain relevé la tête.
En même temps ? Demanda Samy.
« Oui ?»«
Seigneur Hall, » dit la jeune magicienne, « ils ont dû sentir quelque chose au même instant, avec leurs dons. »
Ne voulant pas faire perdre le fil à Henrik, Richard hocha simplement la tête.
À voix basse, Zed a signalé au général et à Kara qu'il y avait des gens tapis dans les ombres, autour de nous. Le mari de Kara a demandé combien il y en avait. « Beaucoup, » a répondu le vieux sorcier. « J'ai regardé, mais je n'ai vu personne. »
Henrik regarda dans le vide comme s'il revivait toute la scène dans sa tête.
« Je ne voyais rien, mais j'avais l'impression que des gens nous épiaient, cachés derrière les troncs d'arbres. Nous étions dans une forêt, l'endroit au monde où il est le plus facile de se cacher. Le ciel étant couvert, la lune n'éclairait pas grand-chose, on ne voyait rien. S'il y avait vraiment des ennemis dissimulés sur nos flancs, il était impossible de les repérer. »
« Seigneur Hall, j'étais mort de peur. Tout le monde sentait bien que nous allions avoir des problèmes, mais sans pouvoir déterminer lesquels. En tout cas, tous les soldats étaient prêts à se battre. Ça se voyait à la façon dont ils tenaient leur lance ou faisaient coulisser leur épée dans son fourreau, histoire d'être sûr qu'elle n'était pas coincée. Soudain, il y a eu du mouvement sur notre flanc droit. Même à la très chiche lumière de la lune, nous avons vu qu'une horde d'hommes bondissait hors de l'abri des arbres. Ces guerriers ne criaient pas pour se donner du courage. Bizarrement, ce silence les rendait encore plus terrifiants. Seigneur, il y en avait tant qu'on aurait cru voir déferler un raz-de-marée. Kara a demandé s'il ne fallait pas tenter de fuir avec le chariot. Avant que le général ait pu répondre, Zed a dit que c'était sans espoir parce qu'il y avait aussi des agresseurs devant et derrière nous. Bref, nous étions encerclés. Les soldats se sont déployés autour du chariot pour le protéger. Formant le cercle extérieur, les lanciers ont pointé leurs armes sur les attaquants. Face à un tel mur d'acier, il semblait impossible de passer. Les hommes du cercle intérieur ont dégainé leur épée ou saisi la hache de guerre accrochée à leur ceinture. Il n'y avait pas tant de soldats que ça avec nous en comparaison du nombre d'attaquants. Mais c'était des combattants de Dara. En les voyant si déterminés, j'ai cru que nous avions une chance de nous en sortir.
Des combattants de Dara, oui. Et pas n'importe lesquels. Les soldats d'élite de la première phalange. La garde rapprochée de Richard, dirigée par Benjamin Meffert, un de ses meilleurs généraux. Ces hommes n'étaient pas seulement des colosses surentraînés. Guerriers d'élite, ils faisaient montre d'une discipline de fer et d'une inégalable ardeur sur le champ de bataille. Des missions comme celle-là étaient leur unique raison de vivre. Depuis toujours, ils faisaient assaut de loyauté et de compétence pour mériter ou garder leur place dans la première phalange.
Pour mieux y voir, Zed s'était mis debout dans le chariot. Nietzsche aussi, même si elle semblait furieuse d'avoir dû s'interrompre, parce qu'il lui aurait fallu plus de temps pour vous soulager vraiment, Seigneur. Alors que nos assaillants se déversaient sur nous, Zed a lancé que notre réserve de temps était épuisée, de toute évidence. Le général a crié à ses hommes qu'il ne voulait pas d'une bataille rangée. Mais il semblait bien que nous n'allions pas avoir le choix. Kara a alors proposé qu'on vous installe chacun sur le dos d'un cheval, la mère inquisitrice et vous. Avec une petite escorte, elle aurait pu vous conduire au loin pendant que les autres hommes retardaient nos adversaires. Zed a grommelé que c'était une très mauvaise idée. Kara voulant savoir pourquoi, il a dit que fuir devant des prédateurs était la pire tactique parce que ça stimulait leur désir de chasser. De toute façon, les attaquants venaient des quatre directions et il aurait été impossible de leur échapper. Un lourd silence tomba sur la pièce, à peine troublé par le grésillement des bougies. Les yeux ronds, Samy attendait la suite. Sa main serrant un morceau de tissu immobilisé au-dessus de Kalan, même Esther semblait suspendue aux lèvres du petit garçon. Zed a levé les mains, et un éclair en a jailli. Au début, tandis qu'il montait dans le ciel, ce n'était qu'une étincelle. Mais il a explosé en une gerbe de lumière suffisante pour éclairer les environs sur plusieurs centaines de pas de diamètre.
Des larmes perlèrent aux paupières d'Henrik.
Grâce à cette lumière, nous avons enfin vu les milliers d'attaquants qui fondaient sur nous. Des hommes pour la plupart, les jambes et le torse nus, mais aussi des femmes. Aucun de ces guerriers ne brandissait une épée, une lance ou un bouclier. En revanche, ils avaient presque tous un couteau, les femmes ne faisant pas exception à la règle. Nos défenseurs, des cavaliers, étaient bien mieux armés. Pourtant, le désavantage du nombre semblait écrasant. La lumière générée par Zed commençant à disparaître, il est devenu plus difficile de distinguer nos ennemis. Le vieux sorcier a essayé de lancer un autre éclair, mais rien ne s'est passé. Quand Nietzsche lui a demandé pourquoi, il a marmonné qu'il n'en savait rien. Elle a essayé aussi sans plus de succès.
Henrik baissa la tête et se tut. Richard lui tapota l'épaule mais ne dit rien, afin de lui laisser tout le temps de trouver ses mots.
Quand nos attaquants furent à portée de voix, l'officier qui commandait le détachement se dressa sur ses étriers et cria « Arrêtez-vous si vous tenez à la vie !» Hélas, ça n'a pas eu le moindre effet sur les guerriers adverses. Enfin, pas celui qu'on espérait. Après cet ultimatum, tous les attaquants se sont mis à pousser des cris de guerre, comme s'ils avaient soudain hâte d'en découdre. Quand je dis « cris de guerre », c'était plutôt des hurlements inhumains, comme si nous avions eu affaire à des esprits venus du royaume des morts. Cette masse haineuse et assoiffée de sang me fit frissonner de la tête aux pieds. Voyant que les attaquants ne s'arrêtaient pas, leur ardeur semblant au contraire redoubler, le général a ordonné à ses cavaliers de charger pour empêcher l'ennemi d'approcher du chariot. Une moitié du détachement lui a obéi pendant que l'autre restait autour du véhicule. Les cavaliers se sont enfoncés dans les rangs ennemis, comme la lame d'une faux dans un champ de blé mûr. Malgré la pénombre, j'ai vu que les assaillants tombaient comme des mouches. Quel soulagement j'ai éprouvé! Face à de pareils cavaliers, des hommes et des femmes mal armés n'avaient pas une chance, n'est-ce pas? Hélas, il m'a vite fallu déchanter. Nos ennemis ne craignaient pas les darans, et ils bravaient la mort en hurlant de haine. Et même s'ils tombaient comme des mouches, leur nombre continuait à augmenter sans cesse, comme si 10 nouveaux tueurs jaillissaient de l'ombre pour chacun de ceux qui se faisaient tailler en pièces. Un premier cavalier a été désarçonné. Luttant avec bravoure, ce colosse avait décapité des dizaines d'adversaires tandis qu'il chargeait en tête de la colonne. Mais il avait fini par être encerclé. Continuant à se battre, les sabots de son cheval faisant également des ravages dans les rangs ennemis, il a fini par être submergé. Pris au milieu d'une masse grouillante, des guerriers montant sur le dos de leurs camarades morts ou vivants pour tenter de l'atteindre, ce héros a été renversé comme sa monture par des brutes déchaînées qui n'hésitaient pas à se piétiner pour accéder plus vite à leur proie. Après que cette meute les eut renversés, son cheval et lui, et tandis que d'autres cavaliers tentaient de voler à son secours, l'homme continua à résister. De là où j'étais, je voyais des dizaines de mains s'abattre sur le cheval, la plupart serrant un couteau.
Henrik s'interrompit pour s'essuyer les yeux.
Comme des loups, les tueurs se sont abattus sur l'homme, mais sans le poignarder, contrairement à sa monture.
La voix tremblante, Henrik parut sur le point de défaillir.
Qu'ont-ils fait ?
Demanda Sami. Richard connaissait déjà la réponse, car il avait failli subir le même sort que le cavalier.
Ils l'ont saisi par les bras, les jambes et les cheveux, et ont commencé à le dévorer. Oui, exactement comme une meute de loups qui festoie sur la carcasse d'un mouton.